Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma. Ce soir, je suis dans les studios avec Monsieur Raphaël Lorenzo, puisque Hakim Fdaouche est absent. Comment allez-vous, cher Raphaël Lorenzo?
Bah, ça va très bien, et toi alors?
Une belle semaine, belle moisson de films. Je vois des choses assez différentes, en tout cas, sur ma fiche.
J'ai vu pas mal de trucs, effectivement, pour nos auditeurs, des trucs assez différents, et un peu pour rattraper le retard qu'on a pris avec le Festival Lumière, du coup, rattraper un peu l'actu, quoi.
Alors, dans un premier temps, on va peut-être parler du dernier Woody Allen. On parlera aussi des Tortues Ninja, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu le grand écart.
Ninja Turtles.
Voilà, et dans un deuxième temps, on parlera du Samba, un petit peu le gros film français du moment. Et du juge, alors ça nous amènera sur une troisième partie où on reviendra, comme chaque semaine, sur une série de films ou un petit peu une époque. Et là, on parlera des films, des grands films autour de la justice et des procès. Alors, écoute, je t'écoute nous parler du dernier Woody Allen.
Et ben voilà, on est en automne, la moisson commence à arriver, hein, c'est un peu comme les champignons. À la même période, le dernier Woody Allen apparaît, hein, un par an, hein, et ça depuis 45 ans, il me semble. C'est vraiment un Stakhanovitz, Woody Allen. On se rappelle encore de Blue Jasmine qui avait cartonné aux Oscars l'an passé. Hein. Cate Blanchett était repartie avec la statuette. Hein. Tout le monde avait salué sa prestation et tout le monde avait salué un retour vraiment en grâce de Woody Allen, hein, après des films très européens. Hein. Il a tourné à Rome dans To Rome With Love, il a tourné à Paris dans Minuit à Paris.
À Barcelone, dans Vicky.
Voilà, il a fait un peu toute la capitale, évidemment Londres aussi avec sa trilogie londonienne. Hein. Et il était de retour en fait entre New York et San Francisco pour son dernier film. Et là, il nous revient avec Magic in the Moonlight qui se passe cette fois-ci sur la Riviera, hein, sur la Côte d'Azur. On est aux alentours de Nice, de Menton, etc. On se balade un peu dans les terres rouges. Hein. Et le film retrace une histoire assez classique, on va dire Woody Allenienne. Hein. C'est l'histoire d'un escroc, d'un magicien, donc un anglais, un aristocrate anglais qui se fait passer pour un magicien chinois. Hein. Et c'est peut-être le meilleur dans son domaine. Quoi. On est en 1928 à Berlin et l'un de ses meilleurs amis qui est magicien vient l'interpeller en lui disant « Viens me voir sur la Côte d'Azur, je suis actuellement enquêteur pour une famille qui se fait, entre guillemets, alpaguer, escroquer par une médium, une jeune médium de talent. J'aimerais que tu viennes, elle est vraiment époustouflante, j'arrive pas à voir ses trucs et toi, comme t'es le meilleur, j'aimerais que tu viennes et que tu démasques en fait ses illusions, c'est toi, etc. Dans un but purement financier. » quoi. Le personnage donc, est interprété par Colin Firth, hein, ce magicien, se rend donc sur la Côte d'Azur et il va très très vite en fait tomber amoureux de cette jeune femme, hein, qui a apparemment des dons.
Qui est interprétée par qui?
Par Emma Stone, la divine Emma Stone. Je vais encore placer Super Grave. Elle a commencé dans le film Super Grave et aujourd'hui on se retrouve donc chez Woody Allen. Et elle joue très très bien de son joli minois, hein, et à partir de là elle va manipuler un peu tout le monde. Quoi. Je trouve, moi, que ce Woody Allen n'est pas un film mineur, n'est pas pour autant aussi l'une de ses plus grandes œuvres. Hein. On retrouve évidemment tout le charme de Woody Allen. Donc, on retrouve le grand névrosé qui apporte la mort, incarné par Colin Firth.
Lui joue dedans ou pas dans celui-là?
Non, là-dedans, c'est vraiment Colin Firth qui interprète le rôle de Woody Allen. Hein. Le grand...
Parce que moi, c'est vrai que personnellement, qui ai vu quand même beaucoup de Woody Allen et quand même bien... en général, ces films, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit faible pour les films où il joue pas dedans, quoi.
Ah bah tu vas aimer alors, parce que non là-dedans il est pas dedans. Puis d'ailleurs de moins en moins au fur et à mesure des films. La dernière fois c'était dans To Rome With Love, mais c'était vraiment une petite panouille. Non là c'est vraiment il met en avant les acteurs, voilà, depuis quelque temps. Vraiment, ces grandes muses comme Scarlett Johansson, etc. Là, c'est Colin Firth, vraiment l'aristocrate anglais avec un accent à couper au couteau, qui n'arrête pas de citer Nietzsche constamment, qui est vraiment ultra pessimiste. Et c'est là la beauté du film, c'est-à-dire que c'est un homme qui ne croit en rien, qui va finalement tomber dans l'illusion, tomber dans un tour de magie et se faire avoir à
son propre jeu.
Exactement. Et c'est là tout le message assez beau de Woody Allen, c'est-à-dire que l'amour, en fait, c'est un mirage auquel on accepte volonté de participer. Quoi. On voit les ficelles et pourtant, la magie opère toujours. Quoi.
On file quand même dedans. Et j'imagine aussi, c'est une époque quand même, tu nous parles de... Donc c'est l'entre-deux-guerres, la Riviera française, on est... après la Première Guerre mondiale, on n'est pas encore dans les tourbillons de la crise et de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une époque un petit peu particulière.
C'est une époque en plus qui rappelle Minuit à Paris, qui était aussi sur la nostalgie. Et là, pour le coup, effectivement, Woody Allen recrée une sorte de Riviera parfaite, magnifiquement photographiée par Darius Conji, hein, l'un des meilleurs chefs opérateurs au monde. Hein. Woody Allen aime avoir des belles photos, des beaux éclairages, pardon, dans ses films. Et force est de constater, ouais, qu'il nous livre un peu des cartes postales française, quoi. Tu vois les rochers, tu vois la mer, tu vois l'arrière-pays. Même si ça peut sembler un peu factice, pardon, ça sert évidemment le propos, quoi. Faut-il mieux vivre heureux dans l'illusion que malheureux dans la vérité, quoi. Et là, pour le coup, on retrouve vraiment le terreau même de Woody Allen, quoi, à travers cette carte postale, à travers ses paysages, et surtout cette histoire d'amour qui est vraiment brillamment incarnée par Colin Firth, qui est vraiment extraordinaire dans le rôle du magicien cynique, et surtout Emma Stone, qui est incroyable, qui est drôle, qui est belle, qui est charmante, qui est légère, enfin, comme d'habitude. Et c'est tellement une évidence qu'elle tente pour Woody Allen, hein, et apparemment, c'est sa nouvelle muse, hein. Après Scarlett Johansson, ils ont encore un projet en commun, hein. Woody Allen a déjà commencé son nouveau film, hein, comme d'habitude, il a toujours un train d'avance. On ne connaît pas encore le titre, hein, c'est l'une de ses habitudes, hein, il tourne sans titre. Et encore une fois, dans un an, on aura encore un nouveau Woody Allen.
D'accord.
79 balais, je crois. Il a 78 ans à l'heure actuelle, donc Stakhanovich, Woody Allen.
Bon, donc plutôt dans la première catégorie des Woody Allen, on va dire.
C'est pas l'un de ses meilleurs, mais c'est pas un des plus mauvais non plus, quoi.
D'accord. Alors, autre film, autre esprit. Qui va bien sûr nous rappeler notre enfance, enfin en tout cas la mienne et je pense celle de pas mal d'auditeurs, c'est les Tortues Ninja. Alors Ninja Turtle
oui, ils l'ont
qui a
traduit
été
comme
réalisé
ça en français.
Par Jonathan Liebesman, c'est ça?
Ouais, qui est un gros yes man, on va dire un gros tâcheron hollywoodien, quoi. Enfin, il a fait pas mal de films assez dispensables, on va dire, et là pour le coup surtout produit par Michael Bay, quoi. Et c'est pour ça que ça a activé un peu l'esprit des geeks, voir la Madeleine de Proust qu'est les Tortues Ninja ressuscitée par Michael Bay, donc mettant en scène des Transformers et autres Bad Boys, hein, avait de quoi un peu exciter mais aussi inquiéter. Et pour le coup, le film donc Ninja Turtles, très mauvaise traduction française, on ne sait pas pourquoi ils l'appelaient comme ça, alors que tout le monde connaît
les Tortues Ninja.
Les Tortues Ninja, que ce soit la bande dessinée, les dessins animés, les jouets, les figurines. Hein. Et donc, le film, comment on pourrait dire, est un remake, un reboot de la saga. Hein. On suit le quotidien de Après le Nil, hein, joué par Megan Fox, la journaliste qui travaille sur Canal 6. Hein. Et une vague de crimes en fait, sévit sur New York avec un clan, le clan des foot. Mené de main de fer par Shredder, hein, le grand méchant des Tortues Ninja. Et à partir de là, elle voit des justiciers qu'on découvre progressivement, un peu comme dans Batman, quoi. Les justiciers.
Mais on voit tout le truc où elles ont le liquide qui leur tombe dessus, les petites tortues dans l'égout.
Justement.
Un peu la genèse du truc. Ou,
tu vois un peu le truc, mais c'est un peu différent, justement. À la base, Michael Bay voulait en fait changer complètement la donne, comme quoi c'était des extraterrestres, etc. Ils se sont très vite ravisés, mais t'as quand même effectivement des manipulations génétiques. Tu vois les tortues quand elles sont petites.
Mais Maître Spider, c'est quand même. Un rat ou...
Il est dedans comme à l'époque.
D'accord.
Non, mais c'est pour ça que c'est très très bien en fait.
Au niveau du scénario, du jeu et tout ça, ça t'a plu quand
je
même
Je pense que le scénario, on s'en fout un peu. Moi perso, sur ce genre de film, je m'en fous un peu. Certes, t'as des trucs un peu. Voilà, t'as des raccourcis, des trucs un peu limites. Mais moi, c'est vraiment ce que j'attends de ce type de film, quoi. Je sais que j'attaque souvent les films de Marvel. Justement pour ce côté fun, ce côté second degré, mais là je trouve que contrairement à Marvel, ça marcherait très bien, quoi.
Il y a l'humour quand même, parce que moi c'est ça aussi, je me rappelle des Tortues Ninja. Alors bien sûr, on était enfant et tout ça, mais moi je me rappelle en tout cas que j'aimais bien ça aussi, parce qu'il y avait quand même vraiment un côté drôle, beaucoup plus drôle que chez les super-héros classiques, notamment Michelangelo, rien que déjà les noms des tortues, et puis même leurs caractéristiques, un petit peu, ça ressort dans le film quand même, ça.
Il y a tout ça, donc on retrouve les quatre personnages, Raphaël, Leonardo, Donatello, Michelangelo, chacun effectivement a une personnalité différente. Raphaël, c'est le bagarreur, le leader, c'est Leonardo, l'intelligent, c'est Donatello, et Michelangelo, c'est le bouffon, quoi. Donc on retrouve vraiment ça, mais dans un côté vraiment très moderne, très pop culture, tu vois. Les Tortues Ninja sont devenus un classique, on pourrait dire, de cette culture-là, et par conséquent, ils ne font que citer d'autres références. Donc il y a des jeux de mots avec Batman, ils parlent de Lost, Ou non, il regarde un clip de comment elle s'appelle, la chanteuse de No Doubt, là, Gwen Stefani.
D'accord.
Gwen Stefani est dans le film, dans un clip. Enfin, il y a plein mal de trucs comme ça. L'humour est vraiment au rendez-vous, mais pour le coup, c'est comme à l'époque. Je veux dire, c'est vraiment un humour pour les enfants, quoi. C'est un humour pour les 8-16 ans, quoi. C'est pas un humour forcément pour nous. D'ailleurs, moi, je suis allé dans une salle qui était comblée de gosses, déguisée au couloir d'être de ninja, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, quoi. C'est le pur divertissement. Certes, peut-être un peu débile, peut-être un peu régressif aussi, quoi, très nostalgique, mais en tout cas, il fait son office. Et moi, j'ai passé un super moment, d'autant plus qu'on retrouve des mimiques par-ci et là du cinéma de Michael Bay, qui est assez marrante. Enfin, moi, j'adore Michael Bay, donc j'assume, hein, et donc par conséquent, on retrouve un peu ces plans en contre-plongée, des plans très très allumés, très pop, etc. Et il y a même un petit clin d'œil à Victoria's Secret, hein, pour les papas, qui est assez rigolo à voir en fin de film.
D'accord. Eh ben écoute, on va écouter un morceau et on se retrouve juste après pour parler, dire quelques mots sur Samba et sur Le Juge aussi. Brume 90.7, deuxième partie de cet entretien Confluence Cinéma. Et Raphaël, tu vas nous parler maintenant du film Samba.
Et oui, après les Tortues Ninja, on change encore de registre. Hein, après le gros blockbuster, après le gros film d'auteur, un film français de Eric Toledano et Olivier Nakache, hein, deux metteurs en scène que le grand public a découvert avec enthousiasme, avec un certain Intouchable, hein, film qui avait fait 18 millions de téléspectateurs, hein, un film donc avec Omar Sy et François Cluzet. Et moi, pour le coup, c'est deux metteurs en scène que j'aime beaucoup, que j'ai découvert bien avant Intouchable. J'ai vu tous leurs films. Ils ont commencé par un petit film qui s'appelle Je préfère qu'on reste amis, une sorte de comédie romantique entre hommes avec Depardieu et Jean-Paul Rouve. Ils ont fait un très très bon film pour gosses qui s'appelait Nos jours heureux avec encore Jean-Paul Rouve et Omar Sy. Avant Intouchable, il y avait le très très bon Tellement proche, on va dire une sorte de fable très comique autour de la famille. Et maintenant, ils nous reviennent avec un drame en fait. Ce Samba-là, hein, qui cartonne aussi, hein, il y en a je crois 1,6 million de téléspectateurs, retrace l'histoire en fait d'un sans-papier, Samba, donc le Samba du titre, hein, incarné par Omar Sy. On le découvre au début du film, interpellé par la police. Hein. Il est là en France depuis environ 10 ans et il travaille en tant que plongeur dans un restaurant. Et il va tomber sur une dame, une jeune femme incarnée par Charlotte Gainsbourg, qui est une femme qui s'occupe d'une association avec d'autres amis à elle. Elle est en complète dépression, elle a fait un burn-out, donc en fait, ça lui fait beaucoup de bien que de traiter d'autres sujets, hein, de traiter un peu du malheur des autres. Hein. Et elle va tomber progressivement sous le charme de Samba. Hein, et on va suivre progressivement leurs relations, mais aussi les problèmes d'autres sans-papiers. Hein. Il y a aussi un jeune Brésilien incarné par Tahar Rahim, qui est un peu foufou, quoi, un peu le séducteur, qui veut vraiment coucher avec toutes les meufs. Et Samba, lui, quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus discret, qui est vraiment là pour faire son boulot, etc., qui n'a pas de problème, qui ne veut vraiment pas partir du territoire, d'autant plus qu'il s'attache à Charlotte Gainsbourg. Et moi, voilà, comme je l'ai dit précédemment, moi, le travail de ces deux metteurs en scène, je trouve, il fait du bien dans le cinéma français. Ils ont une vraie patte, un vrai style. Ils sont vraiment dans ce qu'on appelle le feel-good movie, hein, c'est-à-dire le film qui fait vraiment du bien à voir. Ils ont tout le temps été là-dedans. Ils ont tout le temps teinté leur comédie de drame. Et là, je trouve ce qui est assez intelligent de leur part, c'est qu'ils vont justement teinter un drame un petit peu de comédie, quoi. Le film est assez sérieux, pour le coup, contrairement à leurs quatre précédents films. On voit vraiment les détails, en fait. On voit les détails de la paupérisation de ces populations, ce qu'ils sont prêts à faire pour rester en France, justement pour vivre, quoi, au quotidien. Donc, c'est pas un côté manichéen.
Il y a un côté engagé dans ce film, un petit peu, ou c'est plutôt grand public?
Il y a un peu de tout, en fait. Je pense que certaines personnes vont attaquer... Toledano et Naka justement pour montrer ces gens-là. D'autres vont l'attaquer justement pour un côté tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais moi je trouve qu'il y a quelque chose qui peut plaire à tout le monde, comme dans leur précédent film. Rien n'est manichéen, quoi. On voit un peu tous les problèmes. On voit un peu la police, on voit un petit peu les associations qui aident les sans-papiers. On voit le quotidien de la famille des sans-papiers. On voit l'oncle, il y a un oncle d'Omar Sy qui travaille dans un grand restaurant parisien, hein, dans un grand palace. Je crois que c'est un acteur amateur. Il est vraiment formidable. Hein. Il est vraiment, il a très beau rôle dans le film, l'oncle. Hein. Et on voit un peu à tous ces personnages, toute cette galerie de personnages. Et au fond, c'est un film qui est très humain, comme tous leurs films. Et ça a l'intelligence de montrer Samba, donc incarné par Omar Sy, sous toutes ses coutures. C'est-à-dire, c'est pas le gentil sans papier, l'ingénieux, etc. Il est capable de faire un peu du mal dans le film. Hein. Il va coucher, par exemple, avec la femme d'un ami sans papier à lui qui l'a promis de retrouver. Hein. Et donc, on voit un peu, voilà, toutes ces facettes. Et encore une fois, moi, je suis très content qu'ils aient le courage en France de mettre un acteur noir en rôle principal. Omar Sy, qui a donc gagné le César du meilleur acteur grâce à eux pour Intouchables. Et je l'ai toujours dit, je le répète encore, que Omar Sy est un très très bon acteur qui a le charisme d'un premier rôle. Et c'est évidemment le cas, encore une fois, dans Samba. Hein, il porte le film sur ses épaules. Et c'est la première fois qu'on le voit très émouvant aussi, Omar Sy. On le voit amoureux. Et la relation avec Charlotte Gainsbourg marche très très bien, quoi. Elle est vraiment dans la fragilité. Lui aussi, il y a deux tempéraments, deux névroses qui vont se rencontrer. Et voilà. Moi, ça a marché comme d'habitude et j'en suis sorti tout content, très ému, mais en même temps assez amer d'une situation qu'on vit à l'heure actuelle en France, quoi, de tous ces gens qu'on ne veut pas voir, qu'on refuse d'entendre. Et qu'on met vraiment à la marge, et ces gens-là, ils en veulent, quoi. Ils veulent vraiment travailler, ils veulent tout simplement vivre et survivre, quoi. Et je trouve ça bien que des gens comme ça, qui ont atteint un succès considérable avec Intouchables, parlent de sujets un peu plus graves dans ce film-là, quoi.
Ok, d'accord. Eh bien, écoute, on va passer à toute autre chose avec Le Juge.
Le Juge, voir. Le Juge, oui, le nouveau film de Robert Downey Jr., que tout le monde connaît en fait sous le nom de Tony Stark. C'est-à-dire Iron Man. Iron Man, il l'a incarné combien de fois ? 5 fois déjà. Donc ça fait du bien de voir Downey Jr. dans un autre film, en fait. Et le film est de facture assez classique. Il retrace l'histoire d'un avocat véreux, incarné donc par Downey Jr., qui revient dans son bled, hein, dans son petit patelin, hein, suite à la mort de sa mère. Et on apprend qu'il est brouillé, en fait, à mort avec son père, un juge local, hein, donc incarné par Robert Duvall. Et les deux hommes, voilà, à l'enterrement, ne se parlent quasiment pas. On découvre ses deux autres frères. Hein. Il y a un frère qui était promis un bel avenir dans le baseball et qui a raté sa carrière. Et un frère qui est un petit peu autiste, un petit peu simplet, quoi, un petit peu foufou. Et très vite, le juge va être inculpé pour meurtre. Un homme qu'il a condamné autrefois pour une peine légère a récidivé dans le passé. A tué une jeune fille et lui a mis en fait 20 ans de prison. Et après 20 ans de prison, il retombe sur lui le jour de l'enterrement de sa femme et apparemment, il va le tuer. Donc tout le film va reposer là-dessus. Est-ce que c'est lui qui l'a tué ou pas ? Et le seul homme qui est capable de défendre en fait le père, c'est donc son fils, Downey Jr. Et tout le film va va se jouer entre à la fois le drame familial et le pur film de procès. C'est-à-dire que le film est rythmé par tous les, comment on pourrait dire, les aléas qu'il y a entre le père et son fils, entre le juge et l'avocat, hein, et en même temps, tous les trucs classiques qu'on peut découvrir dans un film d'avocat, donc avec l'enquête, les coups de théâtre, etc. Et pour le coup, ouais, c'est un film qui est d'assez bonne facture, hein, c'est ce que j'appellerais un film du dimanche soir, hein, moi, c'est le film qu'on regarde après les nouilles sur France 2 ou sur TF1, qui est assez bien fait, même si il faut reconnaître qu'il y a des gros raccourcis, des grosses ficelles dans ce genre de film. Voilà, on voit très très bien qu'il y aura une réconciliation finale entre le père et entre le père et le fils, et que tout le monde ira bien, que la famille sera heureuse, etc., que le passé sera oublié. Et du coup, il y a des trucs qui sont très très pertinents. Par exemple, la photo de Janusz Kaminski, qui est donc le chef opérateur de Steven Spielberg, qui fait une très belle photo, mais qui du coup envoie un côté aussi un peu kitsch, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le côté granuleux de l'image, très suréclairé par moments, et il y a une mise en scène assez basique. Par exemple, Denis Junior s'embrouille en fait avec son père dans une voiture avec ses autres frères. Il s'arrête, le père va à gauche, le fils va à droite, au milieu, donc tu as les deux autres frères, quoi. Donc au niveau symbolique, c'est vraiment digne du CE2. Et malgré tout ça, ça se regarde sans déplaisir pour autant, c'est-à-dire que c'est bien rythmé, les coups de théâtre arrivent toujours au bon moment, comme dans ce genre de film. Et c'est surtout porté par deux immenses acteurs, quoi. Donnie Junior, ça fait plaisir de le voir enfin dans autre chose que ses pitreries à la Marvel, là où il fait son show. Et ça fait plaisir surtout, moi qui suis un immense fan de Robert Duvall, de le voir continuer encore de faire quand même des bons films, contrairement à tous ses autres potes d'une Hollywood, donc comme De Niro, comme Pacino, qui ont tous tombé vraiment dans des grosses bouses infâmes. Mais lui, c'est pas le cas.
C'est vrai que Donnie Junior, en plus, à la base, il venait quand même un peu plus des séries et du cinéma un peu d'auteur, non, quand même, ou
Il vient à la base, en fait, de la comédie. Il a commencé au SNL, au Saturday Night Live, en 85, et par les films d'adolescents, en fait. Et il a même fait des films aussi enfants, à l'âge de 8 ans. Et c'est vraiment, pour le coup, Ally McBeal.
Moi, je me rappelle, dans Ally McBeal, c'était mon série, personnage préféré. Une série aussi, quoi,
de procès d'avocats. Qui l'a fait revenir, en fait, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes de drogue, beaucoup de problèmes avec la police, et du coup, il est complètement tombé dans l'oubli cinéphilique avant de renaître de ses cendres avec Iron Man. Et il fait plus que ça maintenant, il en est au 6e, Avengers 2 sort au mois d'avril, donc il ne fait plus que ça. Il est payé 50 millions par film maintenant, donc c'est la revanche de Donnie Junior. Et là, c'est vraiment un projet à lui, hein. C'est le premier film produit par sa société, hein. La Donnie Junior Company, je crois, avec sa femme Suzanne. Et c'est quand même assez courageux, quand même, au-delà des défauts du film, qui est assez classique au genre. C'est assez courageux de faire un film comme ça, quand même, avec des grands acteurs, Duvall, Donnie Junior, et voilà, d'avoir un sujet sérieux, quoi. Et c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, même si le film va parfois un peu trop loin. Moi, perso, voir Robert Duvall en train de se faire dessus, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Il est malade, on comprend dans le film, il y a des coups de théâtre. Ça va peut-être un peu trop loin, voilà, dans le pathos, mais pour autant, ça se regarde sans déplaisir, quoi.
Bon, eh ben, on va écouter un petit morceau de Dinosaur Junior, et ensuite, on se retrouve pour parler justement des grands films sur des procès, des juges, un procureur. Petit peu tout ça. Voilà, on va vous faire un petit retour cinéma-justice. I don't need it, but I'm here. Vous êtes sur Brume, dernière partie de Fluence Cinéma, et nous allons donc revenir un petit peu sur des grands films qui ont attrait à la justice, au procès et un petit peu tout ça.
C'est vraiment pour le coup un sous-genre du cinéma. Le film de procès est un film de genre, il répond à des codes, donc c'est un film qui répond aussi à de la mise en scène pure et dure, on pourrait dire, réglée par... par des codes, etc. Et le film de procès ou d'avocat, de procureur, etc., est vraiment un genre qui est évidemment centré sur la justice, ou du moins l'injustice. C'est souvent le cas pour ces films. Hein. C'est souvent des sujets un peu tabous. Hein. Par exemple, la peine de mort, il y a beaucoup de films qui jugent de la peine de mort, ou des erreurs judiciaires, c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent un héros, avocat ou procureur, etc., qui va partir en guerre contre un système pour défendre une victime. C'est souvent le cas dans ce type de film.
Le doute aussi, il y a quand même là. Moi, je trouve souvent intéressant dans tous les films qu'on va évoquer un petit peu. Alors, pas dans tous, mais il y a aussi, il y en a pas mal où finalement, on ne sait pas vraiment qui est coupable ou pas, mais il y a un petit peu cette histoire, parce qu'il nous traverse tous en tant qu'humains, d'autant plus quand il y a un fait divers et tout, c'est de juger à un moment donné la culpabilité de quelqu'un, et il y a quand même beaucoup de cas dans l'histoire où on ne sait pas, en fait, où on ne saura jamais, quoi.
Et c'est justement le cas d'un film, je crois, qui est peut-être le plus connu en film de procès, c'est toi qui vas peut-être nous en parler, 12 hommes en colère de Sidney Lumet.
Alors c'est vrai qu'on avait parlé déjà de 12 hommes en colère l'année dernière quand on avait fait un petit épisode sur ce grand réalisateur qui est Sidney Lumet, mais c'est vrai que c'est un très très grand film, fin des années 50.
57, ouais.
57, États-Unis, et on retrouve 12 jurés qui doivent décider du sort d'un homme qu'apparemment toutes les preuves donnent comme coupable d'un meurtre. Mais il y a un de ces jurés qui va, en fait, même pas vraiment être... Au départ, il veut pas spécialement dire que l'homme est innocent, mais en tout cas, il a envie d'éveiller le doute chez ses condisciples, qui ont tous envie de partir en week-end, c'est le vendredi, ils ont envie d'aller voir le match de baseball, voilà, ils ont envie de se casser de cette chambre où ils sont enfermés, et il y a ce personnage-là qui va décider de retenir un petit peu ces braves gens, parce qu'ils ont quand même la vie d'un homme entre leurs mains. Et du coup, il y a ce huis clos. Alors, on en avait parlé. On vous invite vraiment à voir ce film parce que c'est un chef-d'œuvre. Autant au niveau de la justice, tout se passe dans une pièce. Il y a une atmosphère de suffocation. Les acteurs sont extraordinaires.
Henry Fonda, pour commencer, hein, qui est vraiment le héros américain en toute sa splendeur à l'époque. Hein.
Et comme ça, au fur et à mesure, il va y avoir un basculement tout au long de l'intrigue du film, et c'est quand même assez impressionnant à plusieurs niveaux sur le sens qu'on peut donner à ce genre d'événements, sur les rapports des hommes entre eux, et en même temps je trouve qu'il y a quelque chose de vachement positif aussi dans ce film, c'est que on nous décrit souvent l'espèce humaine, notamment qu'elle se retrouve un petit peu comme ça, fermée, tous contraints, comme assez noire finalement, et là on va voir que finalement il y a aussi peut-être des côtés qui peuvent être beaucoup plus humains, qui ressortent, et qu'à un moment donné il y a un vrai basculement qui se produit, et en tout cas l'idée de prendre conscience que décider du sort d'un homme, c'est pas si simple, quoi, et qu'il faut quand même prendre le temps, quoi.
Oui, c'est simplement la base du film, quoi, le doute et prendre son temps de réfléchir à tous les paramètres possibles imaginables, puisque la vie d'un homme, coupable ou non, est en jeu, quoi. Et ce sera toujours l'un des aspects fondamentaux du cinéma de Sidney Lumet, que l'injustice, que la justice. Et il va donc faire plusieurs films de procès par la suite. Il va faire, je sais pas si tu l'as vu, l'excellentissime Le Verdict.
Non.
Avec Paul Newman, qui est quasiment au niveau de 12 hommes en colère, où c'est un avocat qui est vraiment au fond du trou, qui est devenu alcoolique, qui a perdu plusieurs affaires. Et on lui donne en fait une affaire assez banale, en fait, c'est défendre une femme qui est dans le coma à travers son frère, et qui parle en fait d'une erreur médicale. Et il va partir en guerre contre tout un système, et il va retrouver justement toutes les valeurs en fait pour lesquelles il est devenu avocat. Et c'est un film qui est vraiment admirable, porté de bout en bout par un Paul Newman qui est vraiment incroyable. On voit, comme tu l'as dit très bien, pour 12 hommes en colère, et ça marche très bien aussi avec Le Verdict, toute l'humanité de tous les personnages. Ce n'est pas soit des bons ou des méchants, chacun a ses motivations, on est vraiment dans l'humanité pure. Et le seul bémol que je donnerais à Sidney Lumet sur ce film, et Dieu sait si j'adore Sidney Lumet, c'est que j'aurais pas donné Le Verdict. À la fin, on sait. Voilà. Moi, je ferais couper juste avant, parce que c'est pas ça l'intérêt du film. C'est un homme qui retrouve justement goût dans les fondements même de sa vie, de l'Amérique, etc. Et il va continuer encore par la suite avec d'autres films. Dans l'ombre de Manhattan, justement un film plus familial, un peu comme Le Juge, entre un procureur et son père qui est flic, un film avec Andy Garcia, Ian Holm, Richard Dreyfuss. Il va faire aussi L'Avocat du Diable, un film sur une avocate qui va un peu tomber amoureux d'un mec un peu très... comment on pourrait dire, gigolo, ouais, c'est ça, un peu très, enfin très sexué, une sorte de, pour le coup, une sorte de, comment on pourrait dire, une sorte de face à face amoureux, quoi, voilà, entre deux personnages. Et il va faire aussi une comédie juridique qui est pas très connue, que j'aime beaucoup, avec Vin Diesel, qui s'appelle Jugez-moi coupable, en 2006, sur un mafieux incarné par Vin Diesel, donc habitué des rôles d'action. Et là, pour le coup, il est très très bon en fait chez Lumet, et qui va faire un show en fait pendant le procès pour défendre tous ses potes mafieux, quoi. Et c'est vraiment, voilà, encore une fois, c'est l'une des thématiques principales du cinéma de Lumet, que l'engagement, que la vérité, que la justice. Et ça forme vraiment une œuvre très cohérente.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer encore comme grand film ? Parce que malheureusement, l'heure tourne.
Il y en a énormément.
On pourrait en citer énormément. On parlait dans les années 90 du grand Philadelphia, quand même. Alors,
Jonathan Dame.
On l'a déjà cité avec Denzel Washington et Tom Hanks, face à face, enfin côte à côte plutôt, on va dire.
Et parce face à d'autres avocats.
Voilà, face à d'autres avocats. Et c'est aussi les années SIDA. Enfin, on est déjà bien dans les années SIDA, mais c'est quand même un des premiers films à grand public comme ça, même s'il y a eu en France, par exemple, Les Nuits Fauves de Cyril Collard quelques années avant. Mais là, on est vraiment dans Tom Hanks qui est atteint du sida et qui est licencié par son entreprise. C'est une banque, non,
je sais plus. C'est un cabinet d'avocats, je crois.
Un cabinet, justement, d'avocats.
Un avocat prestigieux, Tom Hanks.
Et qui va aller voir Denzel Washington pour l'aider, du coup, à battre en justice ses avocats. Et c'est quand même un grand film aussi de procès. Alors, peut-être... avec, on va dire, un côté un petit peu plus hollywoodien et plus grand public que peuvent l'être 12 hommes en colère ou certains Lumet, mais quand même, on est dans quelque chose d'assez beau, d'assez fort. Et puis aussi à une époque quand même qui met un petit coup de poing dans quelque chose, quoi.
Ça sert de vitrine aux acteurs, surtout. Enfin, Tom Hanks a eu son premier Oscar grâce à Philadelphia. Denzel Washington, on l'évoquait l'autre jour, a vraiment explosé à partir de ce film-là. Et encore une fois, le genre du film de procès est vraiment un genre qui est vecteur à des prestations d'acteurs. Je parlais de Paul Newman avant pour Le Verdict. On parle aussi, je ne sais pas, d'Al Pacino pour Justice pour tous, Tom Cruise pour La Firme.
C'est vrai qu'on a l'impression que c'est à la fois la simplicité et la complexité dans le même personnage. C'est-à-dire que souvent, on a des grandes scènes où ça se passe dans des salles ou dans des audiences, donc il n'y a pas à faire tout un travail forcément dingue au niveau du jeu dans un sens, mais dans un autre sens, si. Ouais, non, c'est pour ça que je dis complexité,
parce que l'avocat,
simplicité.
C'est un acteur, l'avocat.
Parce qu'en même temps, voilà, il faut aussi rester tout le temps dans... C'est presque, on dirait presque un examen de théâtre.
Il faut capter le public, le captiver, le convaincre d'aller dans son sens, etc. Et du coup, c'est vraiment un rôle, enfin, l'avocat, le procureur, c'est pareil, ou le juge, c'est vraiment un rôle qui permet vraiment de valoriser l'acteur, du coup. Il y a vraiment une mise en abîme. Et c'est pour ça aussi que Donnie Junior est super bon dans Le Juge, parce qu'il fait son show. Là, il a vraiment un catalyseur pour le coup.
Alors, moi, je vais parler un petit peu d'un film français, Le Juge Fayard. Alors là, on est dans autre chose parce qu'on n'est du coup pas dans un film de procès. On est dans l'histoire transposée parce qu'il a été fait quelques années après l'assassinat du juge François Renaud à Lyon, justement, et que c'était trop compliqué. Donc, c'est Le Juge Fayard et l'action se dit le shérif. L'action se passe à Saint-Étienne au lieu de Lyon. Et c'est Patrick Devers qui va interpréter ce juge qui décide, encore une fois, c'est un classique de ce genre, un petit peu à la Serpico ou quoi, qui décide d'aller contre le système, quitte à se brûler les ailes et à y passer s'il faut, mais en tout cas, il décide d'aller contre contre la corruption, contre les magouilles entre politiciens et hommes d'affaires. Et voilà, on est dans un mi-polar, mi-film de justice. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, là, pour parler aussi de Devers, de l'époque et tout ça, c'est qu'on a, pour ceux qui aiment Devers, on l'a dans un rôle quand même assez différent d'habitude. C'est-à-dire, même s'il sait qu'il va perdre à la fin, il est en pleine possession de ses moyens et c'est un combattant là-dedans, quoi. En tout cas, c'est un film à voir, qui n'a pas que des qualités, mais...
Il faut rappeler le metteur en scène, c'est Yves Boisset, qui est un peu le Lumet français pour le coup, parce que c'est vraiment un homme engagé qui a tout le temps fait chier le système, quoi. Bon, dans tous ses films, il a beaucoup de mal à monter ses films. Et justement, Le Juge Fayard, à l'époque, c'était vraiment un truc très très chaud, quoi. C'était vraiment dans l'actu.
Ah ouais, il y a eu plein de plaintes, ouais. Ils ont perdu des procès sur des noms. Non, c'est clair. Bah voilà, pour finir, tu vas peut-être nous en citer un ou deux rapidement.
Je pense en tout cas que le film de procès permet aussi d'avoir d'autres genres. Ça veut dire que voilà, Le Juge, c'est aussi un drame familial. Ce qui est le cas aussi, par exemple, pour Music Box de Costa Gavras, l'histoire d'une avocate qui doit défendre son père, qu'elle découvre nazi. Le film de procès, ça peut aussi virer à la comédie. Il y a le très très bon Mon Cousin Vinny, qui n'est pas très connu, avec Joe Pesci et Marissa Tomei, hein, qui s'est quand même valu un Oscar. Hein,
ouais, qui est pas mal celui-là.
Qui est pas mal du tout, qui est vraiment un film de procès pour le coup, où c'est très très drôle, où ces deux gamins, ils se retrouvent mêlés dans une histoire de meurtre, ils risquent la peine de mort, et le seul mec qui peut les défendre, en fait, c'est le cousin mafieux, donc Joe Pesci, qui est complètement nul. Et c'est une comédie basée là-dessus. Il y a Menteur-Menteur, avec Jim Carrey aussi, qui est pour le coup une grosse poilade, mais qui repose effectivement sur les mêmes codes.
Avec chaque... Alors il y a JFK aussi dans le film historique, avec des grandes personnalités.
Oui, là, plus un film qui permet de retracer l'histoire de l'Amérique au travers un procureur qui va du coup attaquer l'Amérique à travers le meurtre de John Fitzgerald Kennedy.
En tout cas, comme tu disais, c'est vraiment un sous-genre à part entière. On aurait même plusieurs émissions à consacrer là-dessus parce qu'il y a vraiment
moi, c'est un genre que j'adore,
beaucoup de choses.
Oui, je peux en citer comme ça quelques-uns. Il y a Le Procès, évidemment, d'Orson Welles 62, Autopsie d'un mort d'Otto Preminger avec James Stewart, Des Hommes d'honneur de Rob Reiner avec Tom Cruise et Nicholson, Témoin à charge, Fury, voilà, il y a beaucoup.
Erin Brockovich.
Pacula aussi a fait beaucoup dans le genre aussi. L'affaire Pélican, Présumé innocent. La Défense Lincoln aussi avec Matthew McConaughey, qui est l'un des derniers grands films de procès sorti en 2012. Donc il y a vraiment, vraiment pour tous les goûts, quoi. C'est un genre qui perdure et qui dure depuis toujours. Le premier film que j'ai trouvé de procès, c'est Le Procès de Jeanne d'Arc, qui date de 1928 quand même. Hein.
D'accord.
On est encore dedans et je pense que c'est un genre qui a encore de beaux jours devant lui. En tout cas, moi j'adore.
Ok, bah écoute Raphaël, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités cinéma.